Chapitre 31. Chambre d'enfant. Mademoiselle Pringle, enregistrement. Alors, Indra et Dim, j'espère que la transmission a été bonne. Qu'en pensez-vous?
Moi, je continue à trouver ça incroyable. Toutes ces créatures fantastiques.
On aurait sûrement détecté leur voix radio, même sans les comprendre.
Et dire que ça a été balayé en un instant, tout ça pour transformer Jupiter en soleil.
Et maintenant, on peut comprendre pourquoi. C'était pour donner leur chance aux Européens.
Quelle logique impitoyable.
L'intelligence serait-elle donc la seule chose qui compte? J'imagine les longues discussions que je pourrais avoir avec Ted Kahn sur ce sujet. Autre question, les Européens y arriveront-ils? Ou resteront-ils à jamais cloués à la maternelle? Non, même pas. Dans la chambre d'enfant. Bien que 1000 ans ne soit pas une durée très longue, on se serait attendu à quelques progrès, mais d'après Dave, ils en sont exactement au même point que lorsqu'ils ont quitté la mer. C'est peut-être ça le problème. Ils ont encore un pied, ou un rameau, dans l'eau. Autre chose à propos de quoi nous nous étions tout à fait trompés. Nous pensions qu'ils retournaient à l'eau pour dormir. Eh bien, c'est exactement le contraire. Ils y retournent pour manger, et dorment sur la terre ferme. Comme nous aurions pu le deviner d'après leur structure, ce réseau de branches, ils se nourrissent de plancton. J'ai demandé à Dave, et ces igloos qu'ils ont construits, est-ce que ça ne constitue pas un progrès technique? Et il a répondu, pas vraiment. Ce ne sont que des adaptations de structures qu'ils fabriquent sur le rivage pour se protéger de différents prédateurs, notamment l'un d'entre eux qui ressemble à un tapis volant et qui a la taille d'un terrain de football. Il y a un domaine pourtant où ils ont fait preuve d'initiative, voire de créativité. Ils sont fascinés par les métaux, probablement parce que ça n'existe pas sous forme pure dans leur océan. Voilà pourquoi le tien a été démantelé. La même chose est arrivée aux quelques sondes qui ont atterri sur leur territoire. Que font-ils avec le cuivre, le béryllium et le titane qu'ils ramassent?
Rien d'utile, je le crains.
Ils l'empilent dans un endroit, ce qui forme un amas extraordinaire qu'ils refont sans cesse. Peut-être ont-ils développé un certain sens esthétique. J'ai vu pire au musée d'art moderne. Mais j'ai une autre théorie. Avez-vous déjà entendu parler des cultes du cargo? Au cours du XXe siècle, les quelques tribus primitives qui existaient encore fabriquaient des imitations d'avions en bambou, dans l'espoir d'attirer les grands oiseaux qui, de temps à autre, leur apportaient de merveilleux cadeaux. Peut-être que les Européens ont-ils la même idée. Et maintenant, la question que vous ne cessez de me poser, qu'est devenu Dave? Et comment lui et Hal sont-ils devenus ce qu'ils sont à présent? La réponse qui vient naturellement, bien sûr, c'est qu'ils sont tous deux des émulations, des simulations, dans la gigantesque mémoire du monolithe. La plupart du temps, ils sont inactivés. Quand j'ai posé la question à Dave, il m'a répondu que depuis sa métamorphose, il y a 1000 ans, il n'a été éveillé, c'est son propre terme, que 50 ans en tout. Et quand je lui ai demandé s'il n'était pas indigné par cette prise de pouvoir sur sa vie, il m'a dit « Pourquoi serais-je indigné? J'assume parfaitement mes fonctions. » Oui, ça ressemble bien à Hal. Mais je crois que c'était Dave, s'il est encore possible de faire la différence. Vous vous souvenez de la comparaison que j'avais faite avec le couteau suisse? Hallmann est l'un des innombrables composants de ce couteau cosmique. Ce n'est pas pour autant un outil complètement passif. Quand il est éveillé, il a une certaine autonomie, une certaine indépendance, dans le cadre probablement des limites posées par ce qui dirige le monolithe. Pendant des siècles, il a été utilisé comme une sorte de sonde intelligente pour observer Jupiter, comme vous venez de le voir, ainsi que Ganymède et la Terre. Cela confirme les mystérieux événements de Floride rapportés par l'ancienne petite amie de Dave et l'infirmière qui soignait sa mère quelques instants avant la mort de celle-ci, ainsi que les rencontres à Anubis City. Et cela explique aussi un autre mystère. J'ai demandé à Dave directement « Pourquoi ai-je été autorisé à atterrir sur Europe alors que depuis des siècles, tous les autres en ont été empêchés ?» Je m'attendais à subir le même sort.
La réponse est ridiculement simple.
Le monolithe utilise Dave, Hallmann, de temps à autre pour garder un œil sur nous. Dave savait tout de mon sauvetage et il a même vu certaines interviews que j'ai données sur Terre et sur Ganymède. Je dois dire que j'ai été un peu blessé qu'il n'ait même pas tenté de me joindre, mais il a au moins déroulé le tapis rouge pour mon arrivée. Dim, il me reste encore 48 heures avant le départ du Falcon, avec ou sans moi. À présent que j'ai pris contact avec Alman, je crois que je n'en aurai pas besoin. On peut communiquer aussi facilement depuis Anubis, s'il en a envie. Et j'ai envie de retourner sur Ganymède le plus rapidement possible. Le Falcon est un joli petit vaisseau spatial, mais la plomberie pourrait être améliorée. Ça commence à sentir mauvais là-dedans et j'ai une furieuse envie de prendre une douche. J'ai hâte de te voir, ainsi que Ted Khan. Il y a tellement de choses dont il faut qu'on parle avant mon retour sur Terre. Sauvegarde, transmission.